Non, je vais prendre le relais. Donc, bah, déjà, merci beaucoup pour ce panorama
global.
Spatial. Bon, c'est pas une tâche très facile de discuter ça parce que
bah, oui.
Bah, déjà, c'est très vaste et en plus, bah, y a la technicité des satellites, il y a la technicité du spatial, la technicité de l'Union européenne. Beaucoup de technicité. Ensemble, j'avais un papier qui date de 2013, donc ça a évolué depuis. Donc,
ouais.
Il y avait des questions que j'avais préparées, bien sûr, qui avaient perdu par l'intervention. Ah.
Bah, ça a bougé depuis.
Oui, et puis il y avait des précisions en plus. Donc je vais essayer de faire quelque chose de pas trop désordonné. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça part sur une sociologie du spatial, et puis quand on parle de Copernicus, on est presque plutôt sur une sociologie de l'Union européenne et des politiques européennes. Qui est vachement intéressante parce que j'ai l'impression qu'on peut voir aussi des évolutions dans les orientations que j'ai de la commission, des choses qui se retrouvent dans notre domaine. Qu'on allait travailler un peu sur les politiques d'énergie renouvelable et tout ce qui est démonstration, c'est quelque chose qu'on retrouve sur technologie renouvelable, plutôt aussi sur tout ce qui est capture et stockage du CO2, il y a des programmes comme ça, des démonstrations qui n'ont pas forcément abouti à grand chose, mais avec des enjeux qui doivent ressembler à ce qui se passe sur le spatial. Il y a tous les jeux de lobbying, question de comment aussi, ce que je trouve très intéressant et que peut-être tu pourras développer plus dans la discussion, c'est qu'on a des bureaucrates européens dans le papier, tu dis qu'ils ne connaissent rien au spatial, quoi. C'est des gens qui changent de poste tous les 3 ans, qui ne sont pas tous spécialisés. Donc c'est comment ils gèrent des objets qui sont quand même très particuliers, avec des dynamiques d'investissement, des durées, des temporalités qui sont très particulières, puis une grosse technicité, forcément il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir les savoir-faire pour fabriquer les satellites, pour les gérer, et pour traiter les données, etc. Et donc comment ces particularités du satellite sont transférées aux bureaucrates, comment eux ils gèrent ça, est-ce qu'il y a comment ça existe pour eux, ou est-ce que c'est juste quelque chose d'abstrait, comment on vient les connaissances là-dessus. Parce que tu évoques aussi un moment les ingénieurs qui dans le papier, ingénieurs qui n'arrivent pas à faire comprendre qu'ils ne savent pas qu'ils prennent en compte les incertitudes du fait que peut-être ça va prendre beaucoup plus de temps à faire, donc il faut qu'il y ait des budgets qui soient suffisamment flexibles pour gérer les aléas. Comment ça se transfère? Est-ce que dans le lobbying, qui c'est qui va faire passer ça? Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont devant les yeux les fonctionnaires de la commission quand ils doivent, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais faire leur budget ou faire leurs appels à projet ou rédiger les livres blancs? Comment ces objets existent dans un secteur qui est aussi différent et aussi isolé? Je trouve que là, il y a quelque chose qui peut être très intéressant. C'était plutôt le deuxième grand acte de questionnement, c'était plutôt sur ce que tu as évoqué un peu en conclusion sur les autres sciences qui ont besoin des satellites. Justement, parce qu'il y a une forte codépendance, hein, les sciences du climat, si on enlève les données satellitaires, je ne sais pas trop en l'état à l'heure actuelle ce qu'ils font, la météorologie sans les données satellitaires, c'est pareil. Comment on a un bulletin météo sans ça. Et puis, ça, c'est ce que j'ai le plus en tête, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis, même, je ne savais pas que pour surveiller la PAC, ils utilisaient des satellites, mais j'imagine que là aussi, il y a des enjeux forts. Donc, comment ça se gère, l'éco-dépendance? Est-ce qu'il y a du lobbying aussi d'autres disciplines scientifiques? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la climato? Enfin, je sais qu'il y en a à la NASA, mais au CNES, est-ce qu'il y en a aussi, comment est-ce que je pense que c'est aussi des communautés qui sont moins influentes en termes de lobbying. Comment ça se passe? Est-ce que tu as regardé les écologies au sein des professions scientifiques pour dire, nous on a besoin d'exister et on a besoin de ce programme pour exister, et en même temps ce programme il représente des sommes budgétaires énormes encore en nous. Et quelle est la circulation aussi des gens qui vont venir d'autres domaines de recherche qui vont se retrouver dans les agences spatiales? Et c'est intéressant, je me demandais pour les données à qui elles étaient, mais tu as répondu à la fin en disant qu'elles étaient open access. Est-ce que tout le monde sait qu'elles sont open access par contre, concrètement, comment cet accès existait? Parce que moi, je ne savais pas que je pouvais avoir un login pour aller voir. Je ne sais pas comment je fais pour le demander. Et après, il y a tout l'enjeu aussi de traitement de données, là, qui, par exemple, les images, est-ce qu'elles sont générées dans les centres des mêmes endroits que ceux qui génèrent les satellites, ou est-ce que c'est des laboratoires autres qui vont avoir accès aux données brutes et qui vont après développer leur imagerie ou leur façon de les traiter, enfin, comment ça s'organise aussi, tous ces transferts de... Enfin, plus sur cette écologie plutôt scientifique qui existe. Et oui, après, comment, je sais pas si c'est transféré aussi, de nouveau au niveau politique pour tout ce qui est gestion des politiques climatiques, gestion des politiques environnementales, gestion des politiques agricoles, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'en saisissent aussi pour aller porter des questionnements, des problèmes politiques en disant, ben voilà, le satellite va montrer, il va falloir d'avoir un argument en plus sur des questions comme on peut imaginer la déforestation ou même les catastrophes, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'en saisir comme argumentaire dans des lobbying, ça. C'est aussi intéressant. Alors, est-ce que j'avais d'autres points? Oui, c'était intéressant aussi de voir que c'était la DG Entreprise, parce que je me suis demandé en lisant le papier c'était exactement ce que c'était recherche, ce que c'était environnement. Donc ça, est-ce que tu sais qui a fait ce choix, comment ça s'est fait, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des liens avec les gens qui font de la recherche, enfin qui sont à la DG Recherche. Parce que, je sais pas, pour les programmes FSF par exemple, comment ça fonctionne. Donc je reviens sur l'Union Européenne. Je vais continuer encore. Je pense que j'ai fait le gros des points qui m'ont frappé. Ouais, la partie sur les startups aussi, c'est assez fascinant. Tout ce qui est les discours de valeur, est-ce que ceux qui disent qu'ils vont vendre des flottes de satellites, ils ont les flottes de satellites, ou c'est le discours à la startup, on va chercher de quoi générer des investissements, et puis on parie sur le fait qu'on en aura assez, et puis tout.
On disparaît.
Après ça, on verra. C'est bon, on a un peu moins d'en parler en détail, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de... C'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, le combat entre les vieilles agences gouvernementales bien sédimentées et puis ces espèces d'entreprises super la ville qu'on n'arrive pas trop à suivre, ça peut aussi faire un beau terrain d'étude. J'imagine que les stratégies de mobilité aussi sont pas les mêmes. Les discours, la rhétorique, les alliances. Google qui arrive à Amazon pour faire du
bizarre. Ils y sont déjà.
Oui. Je ne sais pas comment ça se passe au début. Puis il y a des codépendances aussi, il y a Google et ce qui est installé. S'il y a des codépendances aussi entre ces entreprises qui développent et les satellites qui sont installés, est-ce qu'elles viennent chercher des données plus fortes? Je vais arrêter d'ouvrir encore plus de portes.
Parce que c'est déjà difficile de circuler.
Oui.
Non mais c'est...
Il n'y a pas d'obligation de répondre à toutes les questions.
Non mais si, c'est des bonnes questions. Ça me permet d'enrichir en fait la description. Mais vous voyez, mon grand problème, c'est que de décrire très précisément, empiriquement l'objet, c'est déjà hyper fastidieux. Et souvent, j'oublie de faire de la sociologie.
Non mais c'est un problème que j'ai aussi avec mes biologistes.
Ouais, c'est terrible. Parce que, en fait, j'ai une grosse entrée par les organisations, dans les papiers et tout. Donc là, en fait, j'ai un papier RFS, donc je sais que passer, qui passera, j'espère. Où là, c'est très RFS, donc j'ai une question de recherche. Et j'ai la théorie qui va avec et tout. Mais à l'oral, enfin, on est obligé de préciser l'objet, et en même temps, on ne peut jamais vraiment le faire. Il faudrait 3 heures, et on oublie le cadre d'analyse. Enfin, c'est terrible. Donc je vais repréciser quelques éléments, peut-être que je repréciserai peut-être la problématique sociologique. Qui est la mienne et qui a mis du temps en fait à émerger, qui n'était pas vraiment là dans le papier de l'année sociologique que j'avais sorti avec Jérôme Lamy, avec qui j'écris beaucoup, en 2013. Et c'est vrai que c'était encore très labile, on n'était pas complètement sûr de ce qu'on voulait faire, même s'il y avait l'intuition de l'écologie déjà. Sur les fonctionnaires, c'est hyper intéressant. Je ne peux pas matériellement les voir travailler. J'en ai interviewé pas mal. J'ai interviewé l'actuel directeur du service, Copernicus, où j'ai eu 25 minutes de langue de bois avec les drapeaux plantés derrière. je pouvais, en fait c'était une plaquette, hein. Il m'a rien dit de particulier, il ne pouvait rien dire, parce que de toute manière il est contraint par sa parole, donc c'était absolument déprimant comme entretien, et en plus on était, il y avait sa responsable, enfin, qui est au-dessus de lui, il était peut-être filmé quelque part, écouté par les Américains, et donc il était, enfin il ne pouvait rien dire, il n'a rien dit. Copernicus est une grande aventure européenne, super, parfait. Après, il faut trouver, enfin dans un bureau, les indiques, donc là j'en ai trouvé un, qui est là depuis 2 ans, un Français à Bruxelles, qui bosse sur des lignes budgétaires bien précises, avec qui j'ai été manger à la Cantoche, au Berlamont, enfin à la Commission européenne et tout, qui m'a raconté quelques dessous, et notamment sur, ouais, on n'arrive pas à maîtriser techniquement, quoi. C'est trop compliqué, quoi. Le satellite, je sais pas. Mais on a quand même l'intuition qu'ils se foutent de nous sur certains trucs. Et donc, ça c'est la vision donc, interne eurofonctionnaire. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il bosse pas au Berlamont, il bosse à la DG Entreprise. Et là, il était, grâce à nous, finalement, parce qu'il était là pour nous chaperonner, il entrait dans le Berlamont. Vous savez, le bâtiment terrible au niveau architectural de la Commission européenne. Et là, pour la première fois de l'année, peut-être, il rentrait dans le Berlamont. Donc lui aussi, il était badgé et tout. Donc on a été voir le directeur avec lui. Donc même lui était impressionné finalement d'aller voir l'interview de son directeur qu'il ne croise jamais, qui était donc vraiment high level à la DG Entreprise. Et là, donc on voit des gens qui sont très hiérarchisés, avec des portefeuilles d'actions, si je peux dire, en termes d'activités qui sont très variables. Et lui, il s'occupait du déploiement de telle sentinelle, je ne sais plus lequel exactement, je ne me rappelle plus, c'était il y a 3 ans. Mais en gros, c'est comptable. Il gère des chiffres, des appels d'offres. C'est pas vraiment ce que ça va donner. Et ils sont vraiment en flux tendu. Et il est là pour 3 ans. Vraiment, ça circule beaucoup. Et alors, j'ai interviewé aussi le créateur du bureau Copernicus, GMES, qui était là en 2006, envoyé par les Français, un énarque. Donc après, il y a des stratégies entre les États membres pour envoyer, pour noyauter un petit peu les services de la Commission. Donc là, les Français ont beaucoup poussé Copernicus. Et donc ce monsieur, maintenant, il a la DG Tax. Et donc je l'interview dans son bureau, il est bien placé dans la DG. Et le premier truc qui me dit dans l'interview, il me dit, mais vraiment, ça intéresse encore des gens, les satellites, hein, parce que vous savez, moi, je suis passé aux taxes, c'est beaucoup plus intéressant. Bref, et en fait, il me dit, vraiment, ça marche, là, Copernicus, ça y est, c'est lancé. En fait, il surjouait, hein, l'espèce d'indifférence un peu cynique. Il avait circulé depuis, il était passé par la DG Rente, je crois. Donc il y a toute une circulation, une sociologie qu'il faut faire de l'UE, que je ne connaissais pas du tout, hein. Vraiment, que j'ai découverte en assistant à des soirées lobbying, où on fait venir toujours les bons clients de la politique spatiale, donc des grands experts qui vont parler d'eux, avec des eurodéputés triés sur le volet, toujours les mêmes aussi, des bons clients qui vont parler de la politique spatiale. Il y en a quelques-uns donc, que j'ai interviewés. Alors Rachid Adati, ça fait depuis 4 ans que je négocie avec son attaché, il n'y arrive pas, mais j'adorerais parler avec elle de politique sociale. Et c'est pas encore arrivé. Mais j'ai interviewé donc un monsieur Copernicus en Allemagne, en Bavière en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup d'industries là-bas. Monsieur Prodi, qui est le frère d'eux, qui est aussi donc eurodéputé, qui était le chef du Conseil Espace au Parlement européen, qui pendant 10 ans a porté le dossier. Et voilà, eux, c'est quelque chose qu'il porte en interne. Donc c'est le Parlement, c'est pas la Commission, et tous ces gens-là interagissent. Et en effet, pour eux, le spatial, c'est un truc extrêmement exotique, très compliqué. Et les ingénieurs du spatial le savent. Ils le savent, donc quand ils vont les voir, en général, ils leur rendent toujours un discours très bien préparé, très calibré. Ceci dit, de l'autre côté, et là, c'est une mise en perspective, les eurofonctionnaires se moquent des ingénieurs du spatial qui bitent rien au droit communautaire. Donc il y a des luttes d'expertise, de savoir-faire sur comment on administre un budget, avec des règles comptables qui peuvent évoluer entre les règles de l'Agence spatiale européenne, je pourrais m'appesantir dessus, mais ça va vraiment devenir fastidieux, les règles communautaires sur les appels d'offres et tout, donc chacun a sa technicité, et il y a des luttes de technicité sur les objets. D'ailleurs, on se demande, après, si on parle encore de satellites, hein, puisque c'est finalement des espèces de lignes un peu abstraites, c'est des kilo-euros, plutôt des méga-euros, puisque c'est beaucoup d'argent. Donc ça, en gros, j'essaie d'avoir une vue un peu dynamique, sachant que ça circule. Et là, je parlais de l'énarque nommé en 2006. Il se trouve que les agences envoient des experts détachés dans les bureaux de l'Union européenne Donc comment appeler ça? De la reconnaissance ouverte, bref. Évidemment, ils sont encore en lien avec leur État membre. Ça peut être un expert détaché du CNES, par exemple, qui va travailler pendant 3 ans à Bruxelles, et à un moment donné, il revient. Donc il y a des circulations de ce type-là que j'évoquais tout à l'heure. L'actuel directeur de l'observation de la Terre, à l'ESA, que j'arrive pas à interviewer, Joseph Aschbacher, lui, il a commencé sa carrière au JRC, donc la partie R&D de la recherche de l'Union européenne. Il est donc aujourd'hui chef de l'observation de la Terre à l'ESA. Donc il y a cette dimension-là, et puis donc des concurrences entre ces deux organisations qui, si vous tapez Agence spatiale européenne, Commission européenne dans les répertoires de plateformes de space policy, vous allez avoir 200 papiers sur comment améliorer la coopération. Enfin, c'est une espèce de serpent de mer. Et c'était la trame en fait du papier dans l'année sociologique. Et d'ailleurs, on nous a reproché de trop dramatiser cette position qui est quand même assez présente. Mais il y a d'autres acteurs que j'ai même pas cités. Le MEDSAT, donc ça c'est les satellites météo, c'est notre agence intergouvernementale, les agences spatiales nationales. Bon, bref, c'est un micmac pas possible. Mais en gros, voilà, il y a ces dimensions-là que j'essaie d'inclure. En gros, il faut faire une sociologie des carrières aussi. Et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en même temps, pas tant que ça sur le programme Copernicus. Les gens qui ont vraiment eu à un moment donné prise sur le processus de définition du programme, il n'y en a pas tant que ça. Et bah, j'ai interviewé les fondateurs, il y en a une dizaine, quoi, qui étaient au CNES, à l'Agence spatiale italienne, et tous ont leur vision du programme, et de l'histoire du programme, et de la façon dont ils se sont intégrés au programme, et tous, évidemment, surjouent leur influence sur le programme. Par exemple, j'ai interviewé le monsieur Copernicus en France, sans lui, il n'y avait rien. Si vous allez interviewer son homologue allemand, pareil. Bon, bref. Donc il y a toute une dimension de déconstruction des récits officiels qu'il faut faire aussi du programme, qui fait partie aussi de cette sociologie historique que j'essaie de faire, que j'ai résumé à la truelle tout à l'heure. Donc là, c'est pour la première question sur laquelle je pourrais en dire plus, mais en gros, voilà. Le deuxième point, c'est sur les sciences et comment elles sont dépendantes aussi de ces données. Alors, en effet, alors, sur le papier que je suis en train de finaliser, en effet, il y a une espèce de point de passage obligé, quoi. Certaines sciences ne peuvent plus se passer de données satellitaires. En l'occurrence, sur le GIEC, il y a les variables climatiques essentielles. Il y en a 46 de mémoire, quelque chose comme ça. Et les trois quarts viennent du satellite, quoi. Donc là, il y a clairement une dépendance techno, quoi, et qui est mise en avant aussi par l'industrie satellite, en disant, bah, écoutez, sans nous, vous êtes perdus, quoi. Donc là, clairement, il y a un enjeu à ce niveau-là. Hier, j'ai discuté justement avec un climato qui est vraiment qui est au GIEC, enfin, et pour lui, enfin, qui fait partie des grandes voix autorisées en France pour parler du satellite et de l'observation de la Terre, il disait, mais oui, sans les Sentinelles, sans les satellites de la NASA, on peut doubler de la NOAA, nous sommes perdus, quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est que selon les écologies nationales, enfin, en gros, vous avez une écologie monde, hein, du spatial, et elle est nationalisée de façon différentielle, et à chaque fois, c'est pas forcément institutionnalisé de la même façon. Il se trouve qu'au CNES, par exemple, c'est un centre technique d'ingénieurs. Et il y a tout un discours qui est hyper intéressant du point de vue de l'activité sur « nous ne faisons pas de recherche au CNES ». C'est un truc aberrant parce qu'ils font que ça, de la recherche technique sur les propulseurs, sur les capteurs. J'ai visité des labos entiers, ils travaillent sur des manips. Et pour eux, ils ne font pas de recherche, ce n'est pas dans leur mandat. Nous servons des communautés de scientifiques, parmi lesquelles les météorologues, les océanographes, les astrophysiciens. Donc il y a ce discours en France. À la NASA, il y a de la climato. Il y a les départements, il y a la division du Goddard à New York qui fait de la climatologie de pointe, qui est très en pointe sur ces questions-là. À la NASA, il y a de la science. Truc étrange, quoi. Donc il y a ces gaps entre agences. Donc il y a des paramètres organisationnels, de culture organisationnelle qu'il faut intégrer, qui ajoutent aussi à la complexité de l'affaire, quoi. Et si on ajoute la dimension militaire, c'est... Parce que les militaires aussi font de la science. Et certains satellites de reconnaissance produisent aussi des données utiles à la science. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc ça, je pourrais en dire plus, mais ça, c'est un point qui me paraît hyper important, parce que, en effet, sans satellite, il y a plein de disciplines qui s'écroulent, clairement. Donc il y a ce moment d'irréversibilité technique qui fait partie de l'analyse, et qui participe de la justification des programmes comme Copernicus, en effet. L'autre point sur les données... Sur l'open access, cette politique de l'open, elle est très récente, en fait. très longtemps, et d'ailleurs on en parle dans le dernier, dans le dernier développement du papier. Nous, on était au moment où tout se discutait, et ils voulaient en fait vendre les données. Pas hyper cher, et c'était différencié selon le type d'usage qui était prévu, mais il y avait cette idée qu'on allait produire une plus-value, et qu'in fine, ça allait participer de l'entretien financier du programme, ce qui est une aberration, par exemple, que quand on est aux États-Unis, pour qui en fait, les données elles ont déjà été financées par le public. C'est des programmes publics. Donc là, si on vend des données publiques, on fait payer deux fois les gens, quoi. Donc c'est absolument dégueulasse. Donc il y a ce discours qui est très présent aux États-Unis en faveur de l'open. Et en France, très longtemps, la Commission a prôné une solution un peu néolibérale, je ne sais pas comment la qualifier, de nous, on va vendre les données. Et ça a évolué, mais ça ne s'est pas fait de façon naturelle. Et la politique sur les données, c'est un des points les plus crispés de l'histoire de Copernicus. Ce sera un chapitre entier, en fait, qui m'intéresse beaucoup. Avec cette question maintenant, c'est que les vannes sont ouvertes, donc on peut télécharger de la donnée Copernicus. Et les gens à la Commission s'interrogent sur est-ce que véritablement ça sert ? Est-ce que le citoyen européen s'est saisi de cet outil merveilleux qu'est Copernicus pour ses usages quotidiens ? Ça, c'est les questions en cours en ce moment. J'ai encore assisté à un workshop il n'y a pas longtemps sur l'utilisation des données Copernicus. Donc là, c'est une question actuelle qui croise la question du big data, parce que là, c'est tellement énorme, c'est des fermes. D'ailleurs, où on les met, ça, c'est des questions intéressantes en termes de centralisation des banques de données. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigas, de terras, qu'il va falloir traiter, retraiter. En effet, il y a la circulation. En gros, ces données, elles sont captées par des utilisateurs qui vont les transformer. Elles sont entre guillemets brutes, mais bon, après, qu'est-ce que c'est qu'une donnée brute ? Il y a une thèse d'épistémologie qui vient d'être soutenue au centre Coiré par une collègue, Gemma Sirac, sur l'épistémologie des données satellitaires, et qui montre à quel point l'idée même d'image brute a complètement. Qu'il faut la déconstruire. En gros, moi, ce qui m'a intéressé, alors très rapidement, en fait, je reviens sur mes cartes de dégâts satellites. Moi, j'ai été enquêté quelques jours dans un laboratoire universitaire, complètement hybride du point de vue de son fonctionnement. C'est le CERTIT, pour ne pas le nommer, à Strasbourg, qui fait de la cartographie depuis très longtemps et qui s'est spécialisé sur l'observation des catastrophes. Et là, typiquement, c'est eux qui ont produit cette cartographie après la tempête de 2010, plus que la tempête, le cyclone, en 2010 en Haïti, et depuis il y en a d'autres qui ont apparu. En fait, moi je les ai vus retraiter la donnée, et ils ont fait des simulations, parce qu'ils le font en permanence pour justifier leur activité. Il y a des maires qui viennent les voir, et tout, comment fonctionne le circuit, donc ils m'ont fait une simulation. Donc là j'ai vu arriver l'image, on commence déjà à la plugger dans nos modèles, on fait de la 3D, et on commence à faire de la cartographie avant-après. Donc moi j'ai vu comment ça marche. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir où ça part. Et alors, donc j'ai suivi la circulation de la donnée et je suis allé au COGIC, ce qui s'appelait COGIC, je crois que ça a changé de nom, c'est le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. C'est à Levallois, donc là c'est le ministère de l'Intérieur. Je suis allé interviewer, donc ça a duré 3 minutes, un colonel des sapeurs-pompiers qui m'a expliqué que c'était très bien, affirmatif, satellite, c'est super. Et en gros, à la fin, on imprime en format A3 à la carte et on déploie. Et donc là, j'ai vu donc les gens du COGIC qui sont en bout de chaîne, enfin pas complètement, parce qu'après, il y a des gens sur place qui vont vraiment utiliser des cartes. Donc là, vous avez on a un usage parmi beaucoup d'autres d'un type de données, enfin, l'image, qui n'est pas le seul type de données. Hein. Il peut y avoir des données numériques sur l'altimétrie, la hauteur des océans, des lacs, etc. Donc il y a plein de données qui sont générées par une diversité de capteurs. En gros, c'est comment ça circule, ça fait partie des terrains d'enquête, quoi. Moi, je me suis intéressé seulement à la gestion de catastrophes, et j'espère que cette année ou l'année prochaine, vous lirez un article là-dessus, extrêmement en retard dans l'écriture. Donc ça, c'est pour les données. Et le dernier point, sur la DG Entreprise, c'est une énigme. Et c'est complètement contingent, parce que personne ne voulait porter le programme dans la Commission européenne, personne. Donc ils ont trouvé un commissaire européen, qui était un peu bonne poire, qui l'a pris, dans la DG Entreprise, qui était un peu aberrant pour tout le monde. Ça aurait pu se retrouver à la DG Transport, où Galileo, ce qui est devenu Galileo, était pris. Mais comme ça faisait déjà un programme monstrueux, en cumuler deux, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont envoyé ça vers l'entreprise. Mais ce qui a configuré largement la configuration de programme, parce que c'était pris dans les raies de la politique de la croissance, de l'emploi, de la stratégie industrielle, plutôt que de la dimension science, R&D, qui était celle de la DG Recherche. Donc là, il y a un enjeu qui est hyper intéressant à regarder, c'est comment le programme est acculturé dans les DG, et il y a des DG qui ignorent jusqu'à l'existence du programme. Donc il y a une bataille en permanence dans les DG de gens qui sont Copernicus-friendly pour défendre le programme. Et en gros, c'est jamais gagné. Ça ne l'était pas encore en 2010-2011. En gros, ce que j'essaye de faire, et là on revient au questionnement sociologique, c'est comment Copernicus et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un système global. Ce n'était pas forcément le concept initial. Bah, il faut en fait prendre en compte ce genre de paramètres institutionnels, organisationnels, l'histoire politique de la commission, des changements d'affectation, de... Et là, bon, faut intégrer tous ces... Bon, raisonner micro au niveau des interactions entre tel type d'acteurs qui va à un moment donné être hyper convaincu de la pertinence du programme et puis qui après va disparaître au niveau donc méso des organisations ESA commission et puis après au niveau macro de l'écologie. Donc là c'est la façon dont j'essaie de produire ce discours là mais qui n'est pas du tout évident à montrer dans sa contingence. En gros, ce que j'essaie de dire dans le papier qui paraîtra jusqu'à bientôt, c'est ce machin que je vous présente aurait pu ne pas exister. Vraiment. Ou alors, aurait pu être radicalement différent, il y avait des bifurcations possibles. C'est un cimetière de concepts possibles qu'on peut historiciser au fur et à mesure de l'avènement du programme. Et sur les startups, moi, ça, c'est encore une fois, c'est chaud, quoi. C'est un truc qui m'intéresse. Et en effet, on est dans un discours de promesse. Et là, en gros, on m'a commandé un papier, une revue. Où je vais essayer de suivre un entrepreneur de la Silicon Valley, français, genre, un ancien du CNES, passé après à cette image, et maintenant qui est vraiment un requin des affaires dans la Silicon Valley, et qui vend le concept d'une constellation, qu'il essaye de vendre donc à la NASA, où en gros il casse les coups, parce que lui avec ses nanosats, c'est des nanosats qui sont fabriqués à hauteur d'$1 million, pièce, donc c'est vraiment peanuts, c'est cacahuètes par rapport à un programme NASA à 4 ou 5 milliards de dollars. Quoi. Donc lui, il vend ce concept-là, mais en gros, ce qu'il attend, c'est de se faire manger par Google. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, c'est clair. Quoi. Donc il y a ces stratégies qui m'intéressent, hein, d'entrepreneurs classiques. Quoi. Et juste un élément d'anecdote, mais qui est hyper intéressant aussi pour voir comment ça évolue, et là, je reviens sur le sujet des carrières, c'est j'ai réussi à interviewer donc un nouvel entrepreneur qui lui aussi a une boîte qui est basée dans le Colorado, qui est donc une des régions importantes du spatial aux États-Unis, qui se trouve être l'ancien administrateur de la NOAA, donc l'agence qui s'occupe des satellites météo et des observations maritimes. Et lui, il était là sous l'ère Bush Junior, très longtemps, réputé pour être climato-sceptique. Enfin bon, il y avait quelques boulets au pied. Et donc ce monsieur, à l'époque, prônait vraiment les gros programmes intégrés de la NOAA, de la NASA, un discours très fort sur l'État américain et tout. Et, il est par ailleurs vice-amiral, donc on rigole pas avec lui, quoi. Et il a quitté la NOAA, et aujourd'hui il a sa boîte, et il m'a tenu un discours libertarien radical sur il faut dégraisser le gouvernement américain, cette grosse machine à pomper du fric sur le dos du citoyen américain, et vive les petites boîtes comme la mienne, du Colorado, qui vont permettre de tuer ces grosses machines de la guerre froide que sont la NOAA, la NASA. Intéressant, une espèce de vol de face. Et il tenait ce discours de façon complètement décomplexée. Je lui dis, mais vous avez dirigé la NOAA pendant 8 ans. Et la NOAA, c'est 5 milliards de dollars par an. Quoi. C'est un gros programme. Et là, il prenait la vision Silicon Valley radicale. Quoi. Troublant. Donc, ça fait partie en fait, des gens que... Voilà. Ça m'intéresse.